culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi aujourd'hui pour animer cette émission, Isabelle et Bénédicte, bonjour.
Bonjour, bonjour Marie. Marie.
Tisser le futur, ce sont 72 œuvres miniatures en fil. Un prérequis absolu, le format de 12 cm cubes, ça tient dans la main. Ne manquez pas cette incroyable exposition du concours international des mini-textiles. C'est à voir jusqu'au 4 janvier 2026 au Musée de la Tapisserie Contemporaine à Angers. Nous recevons dans le studio de Franche Culture la conservatrice et commissaire de l'exposition, Luce Pintor. Avant de tisser le futur, rendez-vous dans le passé avec la chapelle Notre-Dame de Montplacé, à 1 km de Jarzé dans le Baugeois, 400 ans d'une histoire incroyable. Une chapelle passée au travers des catastrophes, comme miraculée, et qu'une association continue de faire vivre coûte que coûte. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Xavier Roquet-Montégon, président de l'association pour la sauvegarde de la chapelle Notre-Dame de Montplacé. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Bénédicte, vous avez visité la chapelle de Montplacé et vous êtes restée bouche bée.
Absolument, Marie. La sobriété de l'édifice en fait sa beauté, petit bijou de l'après-Renaissance, perché sur un monticule au milieu des champs. C'est un site classé monument historique depuis 1950, d'une valeur exceptionnelle. Une chapelle unique en son genre par sa taille, sa situation géographique et son style architectural. Xavier Roquet-Montégon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de cette association. Alors, quelle est l'origine de cette chapelle? Racontez-nous un petit peu son histoire.
Ah, c'est l'histoire d'une bergère qui gardait des moutons. Nous sommes autour de 1610. Et cette bergère garde ses moutons à côté d'un petit porche qui garde une Pietà datée du XIIIe siècle, en bois. Et surprise par la pluie, elle reste là avec ses moutons et elle voit cette Pietà s'illuminer, s'évanouit. Les gens du village la retrouvent et elle raconte son histoire. Et à partir de ce moment-là, les pèlerins vont venir régulièrement, au cours des années, au cours des siècles, se recueillir auprès de cette Pietà. Le seigneur de Jarzé décide à ce moment-là de construire une chapelle pour abriter cette Pietà.
Il y avait déjà une chapelle avant...
Alors, il y avait eu une chapelle. Il y avait eu une chapelle et en fait, cette Pietà était dans les restes de cette chapelle.
Alors, est-ce qu'on peut dire ce que c'est une Pietà pour ceux qui ne
sauraient
pas ? Alors,
une Pietà, c'est une sculpture d'une Sainte Vierge avec un enfant sur les genoux. Voilà. Elle est en bois, elle est polychrome et elle est toujours dans la chapelle de Montplacé.
Et elle est du XIIIe siècle.
Et elle est du XIIIe siècle.
Elle est incroyable. Elle nous suit du regard.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui fait les autres éléments assez incroyables de cette chapelle?
Cette chapelle a été construite le temps de récolter l'argent et les différents petits soucis qu'ont eu les ouvriers et les financeurs pour construire cette chapelle à l'époque. Cette chapelle a été construite finalement au milieu du XVIIe. Et la particularité, c'est son style, c'est la finesse de la réalisation de tout ce qu'il y a à l'intérieur, des différents hôtels,
des sacristies, des
ornements des hôtels dans la pierre. On pense que les artisans qui ont travaillé là sont les mêmes que ceux qui ont travaillé sur la chapelle royale de La Flèche aux Prytanées militaires. Bien sûr, c'est beaucoup plus petit. Bien sûr, ce n'est pas royal. Mais c'est un style baroque complètement préservé, absolument magnifique, avec à l'intérieur plusieurs objets qui sont là depuis l'origine, qui ont été mis là pour la chapelle, notamment un magnifique tableau au-dessus du maître-autel de la Déploration du Christ qui date du milieu du XVIIe, peint par Jean Hernoux, absolument magnifique, qui a été fait pour la chapelle, puisque son emplacement est exactement là. Une vierge à l'enfant au-dessus de l'autel qui est absolument magnifique, deux anges de chaque côté de l'autel qui sont aussi magnifiques. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Un tronc.
Les voûtes aussi.
Alors les voûtes, bien sûr. Alors après, il y a toute la partie architecturale de l'édifice. Les voûtes, bien sûr. On a trois transepts qu'il a fallu, dès la construction, renforcée, donc il y a à l'extérieur de la chapelle des contreforts pour tenir un petit peu l'ensemble. Et puis à l'extérieur, on a des sculptures au-dessus des portes qui sont absolument magnifiques et qui ont été, je dirais, au miracle conservées. C'est une des choses qui est absolument étonnante, c'est que cette chapelle a traversé les siècles. Elle a été complètement protégée pendant la Révolution, ce qui fait que tout ce qui était dedans avant et à la construction est resté dedans.
C'est presque miraculeux, en fait.
C'est presque miraculeux.
Alors, pourquoi c'est une chapelle et pas une église? Parce que pourtant, la taille, c'est vraiment une grande chapelle. C'est presque aussi grand que, enfin, même souvent plus grand que certaines églises de village.
Oui, alors, parce que ce n'est pas dans un village, ce n'est pas l'église de la paroisse. Hein. C'est une chapelle qui a été édifiée là par le seigneur de Jarzé, qui sont à l'origine, ce sont les descendants de Jean Bourret, hein, puisque le château de Jarzé avait été construit par Jean Bourret.
Le même constructeur que le château du Plessis-Bourret.
Bien sûr.
C'est ça.
Bien sûr. Et le seigneur y mettait un chapelain. C'est pour ça qu'on appelle ça une chapelle. Ce n'est pas une église. C'est un lieu privé.
D'accord.
Et alors, la chapelle est restée privée. Ce sont les descendants de... les terres de Jarzé ont été acquises à la Révolution par un certain Peter Derbrouck. Et ce sont les descendants de sa femme, parce que lui n'avait pas de descendants. Il a épousé une femme deux fois veuve. Et ce sont les descendants de sa femme qui ont été ensuite propriétaires de la chapelle jusqu'en 2020, où le dernier propriétaire de la chapelle, voyant que ses enfants n'étaient pas intéressés par la chapelle, a décidé de faire don de cette chapelle à notre association.
Voilà. Donc là, on parle justement maintenant de l'association de la sauvegarde de la chapelle Notre-Dame de Montplacé, qui fête cette année ses 40 ans, si j'ai bien compris.
C'est bien ça.
Une association qui a sauvé cette chapelle de la ruine.
Oui.
Alors, son objectif est financier pour continuer à la préserver, mais c'est aussi pour faire vivre ce lieu et le faire connaître. Alors, quelles sont vos actions aujourd'hui, justement?
Alors au départ, l'association a été créée pour sauver la chapelle. Elle était dans un état de délabrement. Depuis des siècles, les gens viennent pèleriner à la chapelle. Et tous les ans, il y a un pèlerinage important au moment du 15 août à la chapelle.
Parce qu'il y a eu des miracles?
Parce qu'il y a eu des choses. Alors, ce ne sont pas vraiment des miracles reconnus par l'Église, mais il y a des choses qui font venir les gens. C'est un des lieux mariaux de l'Anjou. Et le 15 août, il y a toujours un pèlerinage qui est important. Et la messe du 15 août était dite devant la chapelle. Et la chapelle était dans un tel état que le curé de la paroisse a dit « on ne va plus pouvoir célébrer la messe ici ». Et à ce moment-là, les habitants de Jarzé se sont mobilisés pour créer cette association et pour rénover complètement et restaurer complètement cette chapelle. À l'époque, la chapelle a obtenu le deuxième prix de chef-d'œuvre en péril, qui est un petit peu l'équivalent du prix Stéphane Bern aujourd'hui. Mmh. Hein. Voilà. Et cette restauration s'est faite après 1985, date de création de la chapelle.
De l'association.
De l'association. Ensuite, une fois que la restauration a été faite, que les activités ont continué, l'association a décidé d'organiser des activités culturelles dans la chapelle, expositions, et principalement des concerts.
Alors, parlez-nous des concerts de cet été.
Alors, les concerts de cet été. Nous avons, comme chaque été depuis quelques années maintenant, deux concerts. Le premier concert, le dimanche 6 juillet à 17h. Un trio piano, violon, violoncelle qui s'appelle le trio Karénine.
Une acoustique extraordinaire.
Une acoustique extraordinaire, particulièrement adaptée à la musique de chambre. Le trio Karénine est un trio qui existe depuis 2009, qui joue absolument partout dans le monde, qui s'est fait une spécialité. Alors le répertoire pour ce type de formation est vaste, c'est principalement la deuxième moitié du 19e, hein, et on aura au mois de juillet des œuvres de Dvorak, Shostakovich, Tchaïkovski et voilà.
On verra tout ça sur le site internet.
Vous verrez tout ça sur le site internet. Et puis un deuxième concert au mois d'août, traditionnellement le dimanche qui suit le 15 août, donc le 17 août cette année à 17h, avec un trio clavecin, viol de gambe et ténor qui nous interprétera des musiques de Couperin, Charpentier et Purcell.
Un très beau programme pour l'été.
Très beau programme pour l'été.
Et la messe du 15 août aussi.
Et la messe du 15 août.
Revient, voilà.
Comme chaque année, on avait ces deux dernières années entre 500 et 600 personnes à cette messe. C'est à peu près 200 personnes qui montent à pied. C'est assez étonnant parce que les gens se donnent rendez-vous sur le parking qui est le long de la rocade qui fait le tour du village. Mais certains viennent à pied d'autres villages qui sont là par groupe et ont marché certains plus de 10 km pour faire ce pèlerinage.
Un bel événement. Voilà. Et puis il y a une dernière petite chose, mais on n'a plus le temps, je crois.
Si.
C'était on n'a pas parlé des globes de Marie.
Alors, l'autre chose qui est importante et que l'on trouve et qui est assez exceptionnelle aussi, c'est qu'il y a à l'intérieur de la chapelle une collection de couronnes de mariée qui sont tous sous des globes en verre. Et en fait, il y a cette tradition, c'est que les jeunes filles des alentours venaient prier la Sainte Vierge avant leur mariage, en demandant à la Sainte Vierge d'avoir un mariage fécond. Et beaucoup, après la naissance de leur premier enfant, venaient faire don de leur couronne de mariée à la chapelle.
Voilà.
Et donc, on en a plus d'une centaine, là.
Oui, c'est vraiment de très beaux objets, en fait.
Ouais.
Xavier Roquet-Montégon, merci beaucoup.
Alors, votre association très dynamique cherche de nouveaux adhérents.
Oui,
bien sûr. Il y a forcément des projets futurs. Comme on l'a dit, il y a 80 adhérents, mais vous en cherchez d'autres. Donc, voilà, pour sauvegarder et faire vivre ce lieu unique. Donc, pour en savoir plus, ben, j'engage tout le monde à aller sur le site chapelle-montplacé.com.
Voilà.
Ça vous va?
Voilà. Oui.
Donc vous pouvez, voilà, auditeur, adhérer, faire un don, vous informer sur les nombreuses propositions de l'été, parce qu'il y en a plus que ces deux concerts,
oui.
Ou alors prendre rendez-vous pour une visite guidée de ce magnifique lieu digne des grands châteaux.
Oui.
Merci beaucoup.
Une superbe visite,
impressionnante.
Merci beaucoup. Et c'est vrai que nous avons besoin d'adhérents, parce que l'association est un passage de génération.
Ah, très bien.
Et la fondatrice de l'association s'est éteinte en mois de février, le jour de la Saint-Valentin, pour aller rejoindre son amoureux. Et voilà, et donc on a besoin de renouveler un petit peu.
Ça va se faire.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Petite pause musicale avant de poursuivre avec l'exposition au musée de la tapisserie contemporaine pour voir des prouesses de création textile miniature. On va écouter Loupa de Lille avec Rêve de Verre. Loupa de Lille sera en concert à Angers le 15 juin à Danse Contact et aussi le 29 juin au 42, un tiers-lieu, le 42 à Angers. On écoute Loupa de Lille.
Chante, le ver chante, le ver chante, le ver chante.
sous toutes ses coutures.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, Franche Culture. Un rendez-vous dédié à la création maintenant, le 10e concours des mini-textiles à Angers. Au musée de la tapisserie contemporaine, 72 œuvres d'artistes du monde entier à découvrir. Avec vous Isabelle et votre invitée Luce Pintor, qui est conservatrice, la toute nouvelle conservatrice du musée de la tapisserie contemporaine d'Angers, et qui est aussi commissaire de cette exposition.
Exactement Marie, c'est un concours international ambitieux, 424 candidatures reçues, 72 œuvres sélectionnées issues des 5 continents, un format très réduit de 12 cm3 imposé à partir de fils ou de l'idée de fil. Luce Pintor, comment avez-vous choisi le thème de cette édition Tisser le futur?
Bonjour, alors pour choisir ce thème, en fait, merci d'avoir rappelé, c'est vrai que c'est la première édition du concours des mini-textiles que j'organise. Et j'ai fait le constat tout simplement que dans le monde de l'art textile contemporain, il y a une émulation, en ce moment un bouillonnement créatif qui est en train de se produire. Et mon idée, c'était de proposer un thème qui soit à la fois assez ouvert pour que les artistes aient de quoi se projeter et de quoi imaginer de nouvelles œuvres, et puis en même temps quelque chose qui les guide dans leur création, de manière à ce que ça puisse donner à nos visiteurs une image de ce qu'est en quelque sorte l'actualité de l'art textile contemporain à cet instant précis.
Alors comment se fait la sélection et surtout sur quels critères hein?
Alors les critères sont annoncés au moment où nous lançons le concours. Déjà nous annonçons le thème et puis nous rappelons les consignes qui sont effectivement, comme vous le disiez, un critère de format. Les œuvres ne doivent pas dépasser 12 cm sur 12 cm sur 12 cm. C'est à la fois plus grand que ce qu'on s'imagine mais plus petit que ce que l'on croit aussi parfois. Pour des artistes qui sont habitués au petit format, pas toujours de problème, mais pour la plupart d'entre eux, ils sont habitués au grand format et donc il s'agit ici de donner la quintessence quelque part de leur savoir-faire dans une petite œuvre, mais qui peut parfois mettre beaucoup de temps à faire. Comme vous le disiez aussi, c'est le fil ou l'idée de fil, c'est-à-dire qu'on ne contraint pas tellement les artistes sur le matériau, ils peuvent laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité en termes de technique. Là encore. Et puis enfin, les critères aussi de sélection qu'on utilise nous dans le jury, c'est à la fois le respect du thème et le respect des consignes, la manière dont l'artiste a répondu au thème, c'est-à-dire la pertinence de sa proposition, et puis enfin la qualité technique de l'œuvre, c'est-à-dire que c'est un concours. Nous avons reçu 424 candidatures, et malheureusement, le jour du jury, il a fallu les juger, et souvent les uns par rapport aux autres. Et donc, c'est à la fois les meilleurs qui tirent leur épingle du jeu en se distinguant.
Donc c'est une mission difficile à accomplir, j'imagine.
Absolument.
Alors, et du côté des artistes aussi, il faut beaucoup d'ingéniosité. Et il est beaucoup question dans cette exposition d'expérimentation. En quoi ces œuvres sont-elles des prouesses à la fois en termes de matière et de technique?
Eh bien, tout d'abord par leur diversité. C'est ça qui pourra, j'espère, surprendre et émerveiller nos visiteurs, c'est qu'on a un véritable panorama et puis qui parfois surprend parce que justement, il n'y a pas toujours de textile. Et avec Tisser le futur, au-delà d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre futur, je voulais les inciter en tout cas à s'emparer de matériaux du futur, à peut-être des techniques du futur. Par exemple, pour ce qui concerne les fibres textiles. Comment est-ce qu'ils les réinventent? Nous avons la laine, nous avons la soie, qui sont des matières naturelles dites traditionnelles dans l'art textile. Oui. Est-ce qu'il y a des choses plus surprenantes qu'ils peuvent utiliser? C'est le cas. Par exemple, une artiste japonaise qui utilise un fil fait de fibres de banane. C'est tout à fait surprenant, en tout cas peut-être pour nos visiteurs. Et puis c'est la même chose pour les techniques, que ce soit l'imprimante 3D, les objets de récupération, ou alors des techniques détournées quelquefois ouais. Et qui sont appliquées de manière surprenante.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup de surprises quand on visite cette exposition. Par exemple, on découvre le textile de verre.
Oui, alors ça c'est quasiment un trompe-l'œil quand on regarde cette œuvre de Théo Beaumont. On a l'impression parfois de regarder un petit mouchoir de lin presque effiloché. Et en fait, en s'approchant, on se rend compte qu'en fait, ce sont des fils de verre qui ont été en fait entremêlés au chalumeau avant de refroidir pour donner l'illusion en fait d'une étoffe qui n'en est pas une, qui est en fait extrêmement fragile.
Et alors vous nous aviez parlé d'une technique lors de la visite de l'exposition, c'était la technique de la cantile. Qu'est-ce que c'est?
Alors c'est une technique de broderie qui est peut-être un peu moins connue, même si souvent nos auditeurs les ont peut-être parfois vues, puisqu'elles sont c'est une technique employée en fait pour les décors des costumes militaires. En fait, il s'agit de créer un élément de broderie à partir d'un fil métallique qu'on enroule sur lui-même de manière à créer un espèce de petit fil entortillé et qu'on coupe par tronçons et qu'on vient broder ensuite, alors des tronçons plus ou moins longs, et qu'on vient coudre sur l'étoffe petit à petit de manière à créer un motif. Traditionnellement sur les costumes militaires ce sont des motifs de feuilles. Ici sur l'œuvre que vous évoquez, l'artiste Sophie Baudry a utilisé cette technique pour surbroder une forme de pyramide et lui donner un aspect futuriste,
très compact.
Très compact, mais tout en sachant malgré tout que ça lui a mis un petit peu plus de 4 mois pour réaliser cette pièce.
Ah bah
c'est d'ailleurs le temps imparti pour réaliser les œuvres.
Oui, ils avaient 4 mois.
Un petit peu plus,
oui. Et comme vous avez des artistes qui viennent du monde entier, évidemment, les techniques sont aussi très, très variées. En particulier, on a découvert, si je ne me trompe pas, le Mizuiki qui vient du Japon.
Absolument. Alors, c'est une technique qui nous paraît surprenante, mais que probablement tous les petits écoliers et écolières du Japon apprennent à faire. On prend en fait un papier washi, un papier fait de fibres naturelles à partir de feuilles de mûrier notamment, un papier très fin qu'on vient rouler pour faire une petite cordelette de papier. Et c'est ces cordelettes de papier qu'ils apprennent à nouer avec différents systèmes de nœuds pour créer des motifs. Et c'est une œuvre en Mizuiki qu'a proposée Sara Yagi, artiste japonaise présente au concours.
Oui, c'est très joli.
Oui.
Alors, Luce Pintor, les représentations du monde et de son devenir sont aussi très présentes dans l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, c'est vrai que quand on a reçu toutes les candidatures et a fortiori après qu'on ait fini la sélection et qu'on ait eu les œuvres des 72 artistes retenus devant nous, j'ai vu qu'il y avait certains thèmes communs qui se dégageaient. Le thème de l'enfance, par exemple. Tisser le futur, ça a évoqué pour nombre d'entre eux les générations futures. Tisser le futur, c'est aussi comment on s'ancre dans le passé et qu'on se souvient des savoir-faire de son héritage pour ensuite les transmettre, les réemployer, les discuter, parfois les déconstruire, mais en tout cas qu'on s'accroche toujours à quelque chose, puisque l'art textile, finalement, s'est vraiment ancré aussi dans un savoir-faire qui s'est transmis. Et puis, il y a la question de l'écologie, de réchauffement climatique qui revient depuis déjà plusieurs éditions, parce que c'est aussi un thème qu'on a beaucoup travaillé. Par exemple, la question de l'eau, la question des frontières, la question de ce que peut l'art pour transformer le monde. Et c'est aussi des questions, des questionnements qu'on a retrouvés dans nombre d'œuvres, certaines qui exaltent la nature pour enchanter la beauté et en illustrer les bienfaits. Et puis en même temps, des œuvres plus inquiètes qui représentent le réchauffement climatique, la menace sur cette nature.
Et vous pouvez nous expliquer justement lesquelles, par exemple, qu'est-ce qu'elles représentent, comment elles entrent en contact avec cette représentation du monde et ses inquiétudes.
Alors par exemple, on a une œuvre qui nous venait d'Australie, qui nous vient d'Australie, de Cressy de Colette, qui est une tapisserie, une petite tapisserie miniature en 3 panneaux, et on voit un paysage qui est en train de brûler. Évidemment, ça évoque les feux de forêt qu'a subi l'Australie de manière disproportionnée ces quelques dernières années, mais des feux gigantesques qui risquent de se reproduire à une fréquence de plus en plus importante avec le réchauffement climatique. Donc c'est la question du paysage détruit, quelque part. Et puis en même temps, il y a l'espoir. Il y a l'espoir d'une nature reverdissante, par exemple avec l'œuvre de Odile Houssin, qui représente comme une tour en train de s'ériger, mais qui est verte, comme si elle était en train de pousser cette tour, une tour verte de végétation, là encore faite en laine. Donc il n'y a pas toujours de pessimisme dans cette œuvre, mais plutôt la volonté de regarder le monde tel qu'il est, d'en témoigner à travers les œuvres.
Oui, c'est plus un témoignage que des œuvres qui portent beaucoup d'espoir, au final, non ? On peut dire ça ?
Peut-être qu'ils sont porteuses d'espoir en ce sens qu'elles reflètent l'optimisme des artistes, ou en tout cas leur volonté d'être optimiste. On pense par exemple à la dernière œuvre du parcours, celle de l'artiste britannique Bozena Kaluga, qui représente avec des petits voiles orangés une aube. L'aube, le soleil qui se lève, c'est l'espoir d'un lendemain quelque part.
Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez également nous dire, parce que quand on s'est rencontré, vous nous avez parlé d'un retour d'intérêt vers les techniques traditionnelles et d'un bouillonnement depuis 2015. Alors pourquoi ?
Alors, depuis 2015 précisément, je ne sais pas, mais en tout cas depuis plusieurs années, ça c'est certain. Le musée de la tapisserie contemporaine d'Angers est ancré dans un écosystème créatif. On pense à Talbe, bien sûr, dont certains élèves ou anciens
Talbe,
élèves
présents. Talbe, c'est les Beaux-Arts.
Voilà, exactement. Ce sont les Beaux-Arts d'Angers, oui. Mais qui sont réunis avec
plusieurs
Le Mans
écoles,
et Tours.
Oui.
Voilà. Mais sachant qu'à Angers, on propose une spécialité art textile. Il y a des anciens élèves qui ont été sélectionnés récemment. On a aussi nos voisins de Cholet. Plusieurs élèves de l'école de mode ont proposé une œuvre et ont été retenus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai constaté, et je ne suis pas la seule, les professionnels du milieu constatent qu'il y a un retour d'intérêt pour le geste technique. C'est-à-dire ces anciens savoir-faire qu'on a peut-être négligé au tournant des années 2000. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, ce qui était en vogue, notamment sur le marché de l'art, c'était l'art conceptuel. L'art numérique aussi, mais aussi beaucoup l'art conceptuel, c'est-à-dire que...
Expliquez ce qu'est l'art conceptuel, en quelques mots.
C'est-à-dire qu'on se base avant tout sur un propos, et ensuite l'œuvre vient traduire ce propos. À l'inverse, quand il y a une volonté aujourd'hui de se réapproprier un savoir-faire, un geste technique, souvent traditionnel, ça se retrouve dans l'art textile, avec l'art du tissage, l'art de la broderie, le travail de la dentelle, l'art de la broderie sous toutes ses formes, qui ensuite vient servir un propos. Et donc c'est le dialogue de la réflexion avec le geste technique qu'on retrouve. Et pas seulement dans l'art textile, mais aussi dans l'art du verre, le travail de la pierre, le travail de la céramique, et là aussi un regain d'intérêt qui est donc nourri par ces écoles des beaux-arts spécialisées de notre territoire, en l'occurrence.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Luce Pintor, sur la scénographie de l'exposition ?
Alors, cette scénographie qui a été réalisée par Catherine Tacconi, elle visait à traduire visuellement ce qu'était le thème du concours, donc cette idée de fil. On a ces tables tout en longueur, qui serpente à travers les salles de l'exposition. Ça se retrouve d'ailleurs aussi dans le graphisme de la signalisation, entre guillemets, de ces salles, qui viennent traduire donc cette idée de fil, qui permettent en même temps aux visiteurs de tourner autour des œuvres autant que faire se peut pour pouvoir les examiner sous tous les angles possibles. Et enfin, il y a le choix de la couleur, donc beaucoup de vert. Parce que donc il y a un vert tendre dans la première salle qui évoque l'enfance ou alors la nostalgie peut-être du passé, qui sont les thèmes qui sont présentés. Dans la deuxième salle, un vert plus intense qui est le vert de la nature, et puis enfin un vert plus sombre, plus froid dans la dernière salle, un vert presque technologique qui vise à illustrer le côté expérimental que nous avions évoqué.
Vous avez mis aussi à chaque fois dans chaque salle une œuvre ou deux un petit peu à...
Voilà. À l'écart.
Un peu à l'écart.
Oui, ce qu'on appelait les œuvres focus, c'est-à-dire que chaque artiste, les 72, sont à absolue égalité et les visiteurs sont d'ailleurs invités à voter pour leur œuvre préférée. Donc, il n'y a pas de favori. Mais c'était juste que chaque table rassemble un thème et puis il y a des œuvres qui ne rentraient dans aucun thème.
Donc, il fallait les présenter, c'était
voilà,
très belle.
Voilà, exactement.
On peut aussi dire qu'en tout début de l'exposition, Isabelle, qu'on a vu ensemble, il y a les œuvres de la précédente...
Précédentes éditions.
Des acquisitions, en fait, des précédentes éditions.
Effectivement, Tisser le futur, c'est la 10e édition du concours des mini-textiles qui se tient à Angers. Donc, au rez-de-chaussée, on va retrouver une petite sélection des œuvres qui ont été acquises au fil des 9 éditions précédentes, de 1993 à 2017. L'édition de 2021, vous la retrouverez à la fin du parcours. Ce sont les 8 œuvres que nous avons acquises à l'issue de cette dernière édition.
Et pour conclure, on peut ajouter qu'autour de cette exposition, il y a un certain nombre d'activités qui sont proposées. Et puis je laisserai peut-être Marie en parler, en dire un mot tout à l'heure.
Voilà, merci Luce Pintor. Alors on peut dire que c'est...
Merci beaucoup.
Vous êtes toute jeune, vous venez d'arriver à ce poste. Donc c'est vous qui allez choisir les prochaines acquisitions. Dans 3 ans, on trouvera...
l'espère. Le concours termine en janvier et on aura une petite sélection à l'issue du concours. Et notamment, on pourra annoncer le vote du public sur nos réseaux sociaux et sur le site internet du musée.
On engage tout le monde à aller visiter l'exposition et éventuellement à voter. Marie-Laure Pintor, merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Luce, merci Xavier et Bénédicte. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Sylvain pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.